Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon exposé du mois de février 2014 qui concernera Michel Cérulaire et le schisme de 1054. Schisme dont nous supportons encore les désastreuses conséquences puisqu'il a séparé l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, qui était incapable de s'unir face à l'invasion musulmane par la suite. Et nous parlerons en particulier de Michel Cérulaire, qui naquit peu avant l'an 1000 et appartenait à une famille sénatoriale. Son éducation le destinait plus aux carrières publiques qu'aux activités sacerdotales. Il était d'un naturel froid et calculateur. Âgé d'une quarantaine d'années, il participa à un complot qui avait pour but de détrôner l'empereur Michel IV. Il fut condamné à la déportation. Pendant son exil et à la suite d'un deuil, il se fit moine. Excusez-moi. En 1041, à la mort de Michel IV, il rentra à Constantinople. En 1042, il devint le conseiller favori du nouvel empereur qui s'appelait Constantin IX, qui est dit monomaque et qui était le troisième époux de la reine Zoé. En 1943, il sera nommé patriarche de Constantinople. Il était très proche de l'empereur et joua un peu le rôle d'éminence grise. Certains ont dit que cette nomination au patriarche de Constantinople fut le résultat de maintes intrigues, mais ceci a peu d'importance. Ce qui est certain, c'est qu'il déborda de joie le jour de son intronisation. C'était un ambitieux. On l'a comparé à Phocius, qui était très savant et qui eut de saints disciples comme Cyril et Méthode, mais Cérulaire était nettement plus orgueilleux, très attaché au pouvoir qu'il détenait grâce à son influence sur le Basileus. En face de Cérulaire, il y avait le pape Léon IX, qui fut canonisé. À Rome, bien sûr. Ce pape appartenait lui aussi à la plus haute noblesse. Il était proche parent des empereurs d'Allemagne. Il accéda au trône pontifical en 1047. Il fit toujours preuve d'une grande dignité et décida de suivre scrupuleusement les lois canoniques. Élu pape à Worms, en Allemagne, il ne voulut accepter cette charge qu'après un voyage à Rome, au cours duquel il demanda au clergé et au peuple romain d'accepter son élection. Cette démarche lui valut une grande autorité. Cérulaire, lui, était plutôt autoritaire, comme l'a fait remarquer le père Philippe, ceux qui sont autoritaires manquent souvent d'autorité. J'ai connu un éminent ingénieur qui faisait d'autorité, on venait le consulter de loin et on buvait ses paroles en silence. Rien à voir avec le petit contrôleur qui vous fait valoir son point de vue avec d'autant plus de force qu'il est discutable. Pour compléter le paysage, il faut rappeler que le pape était aussi le chef d'une principauté, donc inévitablement un chef de guerre amené à conclure des alliances dans un but politique. C'est toute cette histoire de l'état pontifical qui est très difficile et qui a causé bien des difficultés. Saint Léon IX avait autour de lui un cardinal bourguignon nommé Humbert, un lettré qui savait le grec, ce qui était rare dans le clergé romain, et ce qui lui valut un grand prestige. Malheureusement, peut-on dire par anticipation, Humbert avait un caractère excessif. Monseigneur Lagier dit de lui qu'il était plus athlète que diplomate. Il avait des réquisitoires qui n'atteignaient plus les adversaires tellement ils étaient violents. De son côté, l'empereur Constantin IX était agréable, élégant, parlait avec facilité, mais manquait quelque peu de fermeté. Il avait tendance au libertinage, il était fort généreux avec ses concubines. On a dit qu'il ne faisait la guerre que lorsqu'il sentait l'épée dans ses reins, même si Normands et Arabes envahissaient et pillaient les provinces lointaines. Un historien du siècle dernier a écrit au sujet de Cérulaire : l'empereur était trop faible pour rien empêcher, le patriarche avait une idée trop entière de ses droits pour ne rien accepter qui pût le diminuer. La catastrophe était inévitable. Parmi les causes du schisme, il y a d'abord des causes religieuses, premièrement le filioque, dont nous avons déjà parlé, querelle d'autant plus absurde que saint Augustin lui en avait fait une analyse complète, plus de 5 siècles auparavant. Ce qui suit est encore plus désastreux. Le pain azim. Les orientaux tenaient à ne consacrer que du pain fermenté. Pour eux, l'azim est un objet mort, car le levain est en quelque sorte l'âme de notre pain. On est en pleine imagination. L'ancienne loi en avait doté les Juifs en attendant le Christ. Moïse avait déclaré que les azimes étaient le symbole de la misère et du deuil, alors que Pâques est une joie qui nous élève de terre et nous transporte au ciel. Notons que l'usage du pain fermenté était très ancien dans l'Église orientale, comme celui du pain azim dans l'Église occidentale. Cela n'avait jamais fait un objet de dispute jusqu'au XIe siècle. Ensuite, le mariage des prêtres. La vie des prêtres est certes difficile, et s'il y eut en majorité de saints prêtres, l'histoire mentionne hélas plusieurs membres du sacerdoce qui ont failli dans le rôle éminent qui leur est dévolu. Pour les plus haut placés, ce fut le désir d'une vie brillante. Certains évêques avaient des meutes de chiens de chasse. Au XVe siècle, certains papes se sont livrés à la débauche et des évêques à la simonie. Il n'a donc rien de surprenant à ce qu'il y eut des désordres moraux dans le bas clergé et que la question du célibat offrit un sujet de querelle ardente. Cette question revient périodiquement pour plus de détails, lire la presse actuelle. Michel Serulaire prit violemment parti contre le célibat des prêtres, s'écriant « Quel est le docteur de l'Église qui vous a transmis cette étrange coutume ?» On aurait pu dire qu'il s'agissait de saint Paul, mais ça, il n'était pas allé jusque-là. Les latins ont toujours prescrit une continence absolue à partir de l'état de soudiacre. Précisons quand même que l'Église orientale grecque considère le célibat comme un idéal supérieur et, dans tous les cas, seul le célibat conduit à l'épiscopat. Rappelons aussi la différence essentielle entre l'ordination des hommes mariés et le mariage des prêtres. Certes, on peut envisager d'ordonner des hommes mariés, c'est le cas actuel pour les diacres, mais une fois ordonnés, il est hors de question de recevoir le sacrement de mariage. Serulaire reprochait aussi aux Occidentaux de se raser et de manger de la viande saignante. Vraiment, c'était chercher des poux dans la tête. Les causes politiques du schisme. Il est certain que l'empereur Constantin IX était hostile au schisme, tout en se considérant comme le successeur d'Auguste et des empereurs romains. Mais Michel Serulaire en avait, semble-t-il, décidé autrement. Il était prêt à s'appuyer sur des mouvements de foule, car, surtout à Byzance, il était beaucoup plus populaire que l'empereur. Pour Michel Serulaire, l'important était de restaurer l'autorité de l'empereur sur tout le territoire qui était le sien au IIIe siècle. Les difficultés commencèrent en 1053, lorsque Serulaire fit fermer les églises et les sanctuaires latins de la capitale, en particulier celles qui dépendaient des Hongrois et des Italiens établis sur la Corne d'Or. On a affirmé que des hosties latines furent foulées aux pieds par des manifestants qui disaient que le pain azim ne pouvait être l'Eucharistie. Serulaire fit rayer le nom du pape des diptyques de la messe. Un général byzantin en service en Italie tente de s'opposer à ces pratiques. Il fut excommunié par Serulaire. L'empereur laissait faire. Pendant ce temps, le pape, pris en tenaille par des envahisseurs normands et arabes, cherchait l'alliance byzantine. Un historien résume ainsi la situation. Le patriarche Michel Serulaire, ambitieux et violent, était opposé à l'entente avec le pape Léon IX en Italie parce qu'il permettait l'extension de l'influence romaine sur le territoire byzantin. Après avoir cherché querelle à l'Église romaine sur les rites et les usages, Serulaire précipita la rupture le 25 juillet 1054 dans une atmosphère de guerre. Violemment attaqué par les Normands, le pape chercha à se rapprocher des Byzantins en la personne du général Argyros, mais Serulaire détestait Argyros. N'oublions pas que pour les Byzantins, les Romains, les Occidentaux, n'étaient que des barbares pratiquement incultes qui ne connaissaient même pas le grec. Il faut dire que le latin avait fait place à un éventail de langues qu'il faudra encore un siècle pour amener au rang de langue de civilisation. Sous la signature du chef de l'Église bulgare, Michel Serulaire envoya au pape Léon une véritable déclaration de guerre, un ultimatum. Le ton est celui d'un orgueil sans limite et personnifie la présomption la plus gigantesque, la plus pédantesque. Il ose dire au pape « Vous vous abusez vous-même et vous trompez vos populations en affirmant que ce que je viens d'écrire, voilà l'authentique... » Alors, non, pardon. « Vous vous abusez vous-même et vous trompez vos populations en affirmant ce que vous dites. Ce que je viens d'écrire, voilà l'authentique enseignement des apôtres et du Christ lui-même. J'aimerais que ça ne se renouvelle pas de nos jours. Nous retrouverons ce ton chez Luther et chez bien d'autres. La priorité était mise sur la querelle du pain azim. Si l'oblation du pain sans levain n'est pas le corps du Christ, le fondement de notre religion n'existe plus. Nous sommes privés de la vie. C'est pourtant le contraire que professait l'Église de Rome depuis environ 1000 ans. J'ai posé cette question au père Basile, éminent théologien au Barou, qui m'a confirmé que, au tout début, on utilisait probablement le pain qu'on avait sous la main, qu'il soit azyme comme cela pouvait être chez les Juifs, ou fermenté dans le cas contraire. Très rapidement, l'usage se fit de prendre du pain azyme en Occident et du pain fermenté en Orient, sauf en Arménie, sans qu'un usage ou l'autre ait été préconisé. Troisièmement, on ne peut décider de la nature du pain utilisé par le Christ, car la scène eut lieu avant la Pâque juive. Il est possible que ce fût de l'azyme, mais ce pouvait très bien être du pain fermenté. En résumé, il n'y avait pas vraiment de quoi faire un schisme sur un problème qui n'en est pas un. Ayant reçu ce brûlot, le pape fit traduire la lettre et prépara une réponse qu'il confia au cardinal Imbert, et les nie se distinguer des mauvais caractères. Dans sa réponse, le pape précisa que l'Église de Rome est une mère que ses enfants ne peuvent pas juger, encore moins outragée. Mais par mesure de modération, le pape décida de faire porter sa lettre par des légats dont les paroles pourraient atténuer la rigueur de l'écrit. C'est alors que les Normands furent vainqueurs des Byzantins. Dans un premier temps, le basileus se rapprocha du pape pour empêcher la mainmise des Normands sur l'Italie méridionale. Nous sommes dans la politique. Léon IX envoya donc une ambassade avec le fameux cardinal Imbert qui croyait le basileus capable de briser l'orgueil de Cérulaire, ce qui était une erreur. Un malheur supplémentaire, la mort de Léon IX le 13 avril 1054. Son successeur Victor II ne fut désigné qu'un an plus tard, le 3 avril 1055. Du coup, le cardinal Imbert avait tout pouvoir, mais son ami le général Argyros était l'ennemi personnel de Michel Cérulaire qui avait l'appui des masses populaires. Pensant satisfaire l'empereur, le cardinal Imbert et ses deux collègues déposèrent le 16 juillet 1054 sur l'autel de Sainte-Sophie un texte d'excommunication de Cérulaire. Geste regrettable. Cette excommunication outragea l'empereur qui fit chasser les latins. Comme le note un historien, le cardinal Imbert avait à défendre la meilleure des causes, mais il en fut un très mauvais ambassadeur. L'empereur jeta au feu le document d'excommunication et lança un anathème contre les légats du pape. Le dimanche 24 juillet 1054, un synode renouvela cette condamnation, comparant les Occidentaux à des sangliers ravageurs de l'orthodoxie. Cérulaire multiplia ses efforts pour rattacher à son point de vue les patriarches d'Orient, notamment celui d'Antioche. Le nom du pape fut définitivement rayé du canon de la messe. Le patriarche d'Antioche essaya de calmer les esprits. Certes, les Occidentaux ne connaissent pas le grec, sont un peu des barbares, mais le fait de se couper la barbe ou de consommer de la viande non saignée n'est pas suffisant pour nous couper de deux. Mais il était trop tard. Le schisme était consommé. Une tentative eut lieu en 1058, mais une tempête empêcha la rencontre. Michel Cérulaire mourut en 1058, emprisonné par l'empereur Isaac Comnène, contre lequel il avait fomenté une révolte. Ce schisme semble avoir pour raison profonde la rivalité entre Rome et Byzance. Les questions liturgiques n'ont été que des prétextes qui nous semblent maintenant bien secondaires. Nous aurions tort de nous en moquer en regardant certains déchirements actuels. La barque de Pierre est sans cesse secouée par des démons qui cherchent des motifs les plus extravagants. Bientôt le carême et la sainte résurrection qui nous rappellent que nous en sortirons de toute façon vainqueurs. Mais prions la Sainte Vierge pour hâter l'heure. Je vous souhaite un bon mois de février.